Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous parlons de l'industrie financière africaine, une industrie en pleine mutation mais qui doit faire face aux cyber-risques. Notre invitée Ramatoulaye Goudiaby, directrice de l'Africa Financial Summit AFIS, reviendra largement sur le sujet. Ce sera dans quelques minutes. Avant cela, nous parlerons de commerce en ligne en Afrique et nous serons en Afrique de l'Ouest pour voir comment ces activités continuent de se développer ainsi que leur adoption par les populations locales. Ce sera dans le Zoom Express. Et notre destination éco de la semaine nous mène en Afrique de l'Est. Nous retournons en Tanzanie. Retrouvez notre analyste Idriss Lindje qui nous présentera en fin d'émission les opportunités d'investissement dans cette importante économie de plus de 62 millions de consommateurs. Quels sont les principaux sujets de votre émission? Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, nous allons parler de commerce en ligne en Afrique et nous prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest pour voir comment ces activités continuent de s'y développer, mais surtout leur adoption par les consommateurs et les utilisateurs locaux. Et nous avons le plaisir d'en parler avec Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Je rappelle que le cabinet Best Afrique ainsi que la plateforme Best Afrique aident donc à connecter les diasporas africains et les porteurs de projets. Parmi ces belles expériences que nous avons le plaisir d'évoquer aujourd'hui, c'est celle de Sell and Buy, dont nous avons aussi avec nous en ligne depuis Dakar, le CEO Samba Diangha. Bonjour à vous, Samba Diangha.
Bonjour, Monsieur Oumar Baldé.
Alors,
merci pour l'invitation.
Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Tout d'abord, Moustapha El Bouri, parlez-nous du développement et de l'émergence de ces activités de commerce en ligne en Afrique de façon générale.
Oui, Oumar, c'est vrai que le marché du commerce en ligne s'est développé de façon, je dirais, exponentielle ces dernières années, hein. Dans tous les secteurs, principalement, on a des success stories, comme on dirait en anglais, comme Jumia, par exemple, qui a été développé au Nigeria il y a quelques années, qui est devenu à un certain moment une licorne même, et voilà, qui est maintenant coté en bourse au marché de New York. Hein. On a plein de plateformes maintenant aussi qui commercialisent différents produits agroalimentaires. Et ceci, donc maintenant, on trouve des plateformes de e-commerce vraiment dans tous les secteurs. Mmh. Et je pense que ceci a été aussi facilité par le paiement en ligne et les mobile money.
Mmh. L'inclusion donc financière. Alors, parmi ces exemples, il y a celui de Sell and Buy, dont nous avons le plaisir d'avoir le CEO avec nous, Samba Diangha. Je le disais, il est en direct avec nous depuis Dakar, au Sénégal. Parlez-nous justement de l'expérience de Sell and Buy, qui, je rappelle, est une plateforme digitale basée au Sénégal, mais également active en Afrique de l'Ouest. Alors, parlez-nous de l'évolution de votre plateforme.
Bon, Sell and Buy est une première plateforme digitale et innovatrice de la mode. C'est un nouveau style de boutique de friperie, mais en ligne, pas comme dans un espace physique. Et Sell and Buy, étant une version moderne de la friperie, elle permet de connecter vendeurs et acheteurs en seconde main et en particulier s'occupe que des vêtements, des chaussures et accessoires, et de toute tranche d'âge. Comme nous le savons, le Sénégal est un pays très actif dans le marché de la seconde main. Mais le temps coûte cher et les déplacements deviennent de plus en plus difficiles avec des embouteillages infernale dans la région de Dakar surtout. Et des fois aussi, nous assistons aussi à des dégarfissements souvent de ces vendeurs de fripes. Avec Sell & Buy, la plateforme permet d'acheter et de vendre, et ainsi d'aider à prolonger la durée de vie des vêtements, à avoir une alternative face à l'achat de neuf.
Avoir l'alternative face à l'achat. Alors, quelle est l'évolution de la plateforme ces derniers mois?
Bon, la plateforme a pris un peu plus de 6 mois de développement et a été lancée il y a juste 2 mois. Donc, actuellement, nous sommes à plusieurs centaines d'utilisateurs et de transactions.
Alors, sentez-vous, il est vrai que le marché de la friperie est bien développé à travers le continent. Dans le cas du Sénégal, certainement, c'est le cas. Comment les utilisateurs ou bien le public et les consommateurs, quel intérêt manifestent-ils par rapport à ce concept?
Ils sont vraiment contents parce que, comme nous le savons tous, les déplacements sont vraiment un problème maintenant dans la région de Dakar. Donc, les utilisateurs, ils sont contents d'avoir un site, une plateforme maintenant qui leur permet de rester chez eux, de prendre des photos de leurs articles et de les acheter et d'avoir un vendeur en un clic et recevoir leur argent sur 24 heures dans la même journée.
Alors, Moustapha El Bouri, on parlait de cette inclusion financière. D'ailleurs, on parlera avec notre invité de tout à l'heure de cet aspect-là. On parlera de l'industrie financière africaine. Alors, globalement, qu'échangent ou qu'achètent les consommateurs du continent à travers le commerce en ligne?
Au jour d'aujourd'hui, je pense que si on prend je l'ai mentionné tout à l'heure, la principale plateforme d'échange d'e-commerce aujourd'hui en Afrique, il faut le reconnaître, c'est Jumia. Et quand on voit Jumia, c'est vrai que maintenant, bon, Jumia avait commencé par tout ce qui était accessoires électroniques à la base. Au jour d'aujourd'hui, quand on rentre sur la plateforme, on trouve de tout. Ça va des boissons, de l'agroalimentaire. On trouve maintenant de tout, des accessoires, d'électronique. Bon, c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, le vêtement, comme disait, le commerce de vêtements, il y a encore beaucoup à faire. C'est quand même un domaine qui s'est solidement implanté, je pense, et qui joue un rôle de primordial dans l'économie africaine. Juste pour donner un chiffre, l'année dernière, il y a près de 1,4 milliard de vêtements de seconde main qui ont été importés sur le continent. Voilà. Au Sénégal, c'est près de 1000 tonnes de friperie. Donc c'est quand même un marché économique très très important. Pour de nombreux Africains, ce secteur, je pense que s'il offre aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est des opportunités cruciales en termes d'emploi et de revenus. L'utilité, l'accès, c'est vrai, en ligne, ça va permettre d'augmenter un peu le volume d'échanges.
Alors, Samba Diankha, une dernière question pour vous, c'est aujourd'hui, quelles sont les perspectives de développement d'une plateforme comme la vôtre?
Bon, les perspectives de développement, c'est d'avoir une application qui permet vraiment de connecter toutes les régions du Sénégal et même un peu partout dans les pays de la sous-région en permettant de favoriser une économie circulaire, une durabilité et de sensibiliser aussi les personnes à favoriser les éco-gestes.
Favoriser donc l'ensemble de ces écosystèmes. Merci à vous, Samba Diankha. Je rappelle que vous êtes le CEO de Sell & Buy, une plateforme donc de commerce en ligne basée au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Merci également à Moustapha El Bouri. Vous êtes le directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les investisseurs des diasporas africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Omar, c'est un plaisir.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Notre invitée s'appelle Ramatoulaye Goudjabi. Elle est la directrice de l'Africa Financial Summit AFIS. Avec elle, nous parlons de l'industrie financière africaine, une industrie en pleine mutation, mais qui doit faire face à de nombreux défis, notamment les cyber-risques, par exemple. On en parlera en détail. Bonjour à vous, Ramatoulaye Goudjabi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Baldé et merci de me recevoir.
Alors tout d'abord, le baromètre de l'industrie financière africaine a été publié récemment et ce baromètre met en lumière les mutations en cours, hein, on en parlait, et si, ainsi que les stratégies adoptées et les défis à venir. Alors à votre avis, quelles sont les principales tendances qui façonnent actuellement l'industrie financière africaine?
Alors, la dernière édition du baromètre met en lumière une transformation rapide du secteur financier africain portée par trois grandes dynamiques que j'ai envie d'explorer avec vous ce matin, qui sont la digitalisation des défis macroéconomiques assez persistants et puis une intégration régionale encore inachevée. Alors, si on prend le premier point, donc la digitalisation et la modernisation des services financiers, on se rend compte que la digitalisation est devenue un moteur clé dans la transformation de l'industrie financière africaine. L'essor des fintechs et des infrastructures numériques accélère cette modernisation des services financiers. L'open banking et l'intelligence artificielle, ainsi que le cloud computing, transforment l'offre de services, ce qui rend en fait les transactions beaucoup plus rapides et accessibles. Par exemple, on a le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, qui facilite les transactions transfrontalières, même si son adoption reste encore limitée, c'est ce qu'on voit dans le baromètre. Cependant, ce qu'on voit également au niveau de la digitalisation, c'est que cette évolution, elle pose aussi des défis en matière d'inclusion financière et de cybersécurité qui sont encore insuffisamment maîtrisés. Dans les défis macroéconomiques et au niveau de l'instabilité financière, on se rend compte que l'inflation reste la principale préoccupation des acteurs du secteur devant l'instabilité politique et tout ce qui est cybermenace.
Oui, justement, on va parler de ces cybermenaces et cyberrisques. Hein, autrement dit, c'est d'ailleurs ma deuxième question. Alors, on fait état que ces cyberrisques sont désormais perçus comme plus préoccupants que les risques financiers traditionnels hein, dans l'industrie financière africaine. Dans ce cas ou face à cette situation, quelles sont les stratégies qui, selon vous, doivent être mises en place afin de mieux protéger les institutions et leurs clients?
Alors, je pense qu'il faut tout d'abord renforcer la résilience des infrastructures numériques. Les institutions financières, elles doivent moderniser leur système informatique en adoptant des solutions de sécurité comme le chiffrement des données, l'authentification multifactorielle pour ne citer que ces deux-là. Par exemple, on a certaines banques africaines qui utilisent déjà l'IA pour surveiller les transactions en temps réel, ce qui leur permet en fait d'identifier et de bloquer une fraude avant qu'elle ne se produise de manière récurrente. Ensuite, il faut former les employés et sensibiliser les clients. On a 70% des cyberattaques qui exploitent des erreurs humaines comme des mots de passe qui sont faiblement constitués ou des clics sur des liens frauduleux. Il est donc crucial de former continuellement les employés des institutions financières pour qu'ils puissent identifier et prévenir ces menaces. Et enfin, il faut développer une collaboration régionale contre la cybercriminalité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières, on le sait. Donc il est donc essentiel que les institutions financières, les régulateurs et les gouvernements africains travaillent ensemble pour mieux partager les informations et les menaces. Et par exemple, le Centre africain de cybersécurité qui est basé en Côte d'Ivoire, pour ne citer que celui-ci, c'est un bon exemple vraiment d'initiative qui vise à renforcer la coopération régionale face aux cybermenaces.
Alors, cela dit, dans cette édition 2024 du baromètre, il est aussi question de gouvernance et de ces fameux administrateurs indépendants. Parlez-nous de l'évolution de leur intégration dans ces institutions et peut-être aussi de l'évolution que cela devrait favoriser.
Alors merci Monsieur Baldé pour cette question qui touche à un enjeu vraiment essentiel. La gouvernance des institutions financières africaines, elle est en pleine transformation avec une volonté affirmée de renforcer la transparence, la prise de décision stratégique et la diversité au sein des conseils d'administration. L'essor des administrateurs indépendants est un signal positif, c'est ce qu'on voit dans le baromètre, mais la progression vers une meilleure parité, elle reste encore trop lente. Aujourd'hui, seulement 14% des sièges d'administrateurs dans les institutions financières africaines sont occupés par des femmes, malgré les nombreux bénéfices prouvés d'une gouvernance plus inclusive, notamment en termes de performance, de gestion des risques et de prise de décision. Alors, je pense qu'il faut déjà imposer des quotas ou fixer des objectifs volontaires. Un des leviers majeurs consisterait à imposer donc, des quotas et à encourager, en fait, ces objectifs volontaires en matière de parité. un pays comme le Maroc, d'ailleurs, et l'Afrique du Sud, ils ont déjà adopté des réformes dans ce sens. Ensuite, il faut développer un vivier de talents féminins. On manque de candidates qualifiées et c'est souvent évoqué comme un frein, mais la réalité est différente. On a de nombreuses femmes qui occupent déjà des postes clés dans la finance, la gestion des risques ou la conformité, mais qui peinent à accéder au conseil d'administration. On a beaucoup d'initiatives comme Women in Finance Africa ou le programme de mentoring de l'African Women Leadership Fund qui joue un rôle clé pour former et accompagner des femmes vers ces rôles stratégiques. Mmh. Alors, enfin, je pense qu'il faut sensibiliser et engager les actionnaires et les dirigeants par rapport à ça. La diversité dans les conseils d'administration ne doit pas être perçue comme une contrainte, je pense, mais comme un véritable levier de performance. Mmh. Et surtout parce que les investisseurs institutionnels peuvent conditionner leur investissement à une meilleure représentation des femmes dans les organes de gouvernance.
Mmh. En tout cas, c'est noté. Alors, une dernière question qui me vient à l'esprit. On ne peut jamais parler du secteur financier africain sans parler de ses perspectives. Quelle est la météo de cette industrie financière que vous pouvez nous faire, Ramatoulaye Goudjabi? Je rappelle que vous êtes la directrice de l'AFIS, qui est l'Africa Financial Summit.
Alors, en quelques mots, je pourrais vous dire que l'industrie financière africaine, elle reste résiliente. On se rend compte déjà qu'en termes de solvabilité et de rentabilité, l'ensemble de l'écosystème est resté plutôt résilient, même si on voit une dégradation dans certains secteurs comme les fintechs, par exemple, de la rentabilité et de la qualité d'actifs pour le secteur bancaire. Mais on se rend compte aussi que, et je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration régionale et la finance durable progressent à un rythme, mais à un rythme encore lent en Afrique. On a seulement 4% des institutions financières, malgré un intérêt croissant, qui disposent d'un reporting structuré de leurs empreintes carbone, qui illustre en fait un retard dans le développement de produits financiers verts. On a aussi, par exemple, des initiatives comme AELP, African Exchange Linked Project, et le PAPS, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne sont opérationnels qu'à 7% et 20% respectivement. Et ces dynamiques, elles restent freinées par une fragmentation réglementaire persistante et un manque d'infrastructures adaptées qui limitent encore les flux d'investissement intra-africains et la croissance du secteur financier. Et enfin, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'inflation demeure la principale préoccupation des acteurs du secteur, notamment pour 54% des sondés, devant l'instabilité politique et les cybermenaces. Mais on a quand même une adaptation qui est forte. On a 88% des banques qui ont révisé leur allocation d'actifs, tandis que les banques centrales comme la BCAO et la Banque centrale du Nigeria ont durci leur politique monétaire, et récemment d'ailleurs le Kenya, leur politique monétaire, mais aussi leur politique au niveau de la solvabilité pour leurs banques. Donc toutes les banques doivent renforcer leurs fonds propres pour être capables de supporter des chocs exogènes.
Oui, à vous entendre parler, on sent la passion et vraiment cette énergie qui se dégage, surtout que vous parlez d'un secteur qui vous passionne tant et qui est votre, qui vous occupe en plein temps, donc le secteur financier. Je rappelle que Ramatoulaye Goudjabi, vous êtes la directrice de l'Africa Financial Summit, donc l'AFIS dont vous nous avez parlé, des évolutions mais aussi des risques. Et je rappelle que la dernière édition de l'Africa Financial Summit s'est tenue récemment à Casablanca, ici au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ramatoulaye Goudjabi.
C'est moi qui vous remercie. Je vous donne de nouveau rendez-vous au Maroc, où se tiendra la 4e édition de l'Africa Financial Summit.
Rendez-vous donc est pris pour l'année prochaine. Merci à vous.
Merci, M. Baldé.
Destination Éco.
Et notre destination éco de la semaine nous mène en Afrique de l'Est. Nous retournons en Tanzanie. Retrouvez notre analyste Idriss Lingier qui nous présente les opportunités d'investissement dans cette importante économie de la sous-région orientale du continent avec ses plus de 62 millions de consommateurs.
Destination éco.
Nous allons en Tanzanie et c'est en Afrique de l'Est, sur les rives de l'océan Indien. La Tanzanie, c'est un important marché de plus de 63 millions de consommateurs. Comment se porte l'économie tanzanienne? Nous en parlons avec Idriss Lingier, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin. Bonjour à vous, Idriss Lingier.
Bonjour Marc, bonjour aux auditeurs de Midi Radio. Aujourd'hui, Nous allons leur parler de la Tanzanie. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Est, juste à côté du Kenya. Et pour information, c'est le pays qui abrite le mont Kilimandjaro. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est beaucoup plus facile d'accéder à cette montagne historique de l'Afrique par le Kenya. Alors, la Tanzanie affiche une croissance économique notable avec un produit intérieur brut réel, qui a augmenté de 5,3% en 2023 contre 4,7% en 2022. On attend encore les chiffres de 2024. Le PIB en Tanzanie, au contraire de beaucoup de pays africains, n'est pas soutenu par le pétrole, n'est pas soutenu par les mines, mais il est soutenu par l'agriculture, la construction et l'industrie manufacturière. Donc c'est une économie qui est adossée sur un système productif. Et de plus, on note qu'en Tanzanie, l'inflation est restée assez modérée. D'ailleurs, elle est passée de 4,3% à 3,8% en 2023. Ce qui veut dire que les prix n'augmentent pas aussi vite en Tanzanie. Au contraire des pays comme par exemple le Ghana ou encore le Nigeria, où on a vu des chiffres d'inflation à deux chiffres. Et cela, grâce à une politique monétaire bien contrôlée, il n'y a pas beaucoup de spéculation sur le shilling tanzanien, ce qui fait que la monnaie conserve une certaine stabilité et le pays parvient à régler des problèmes liés à la balance des paiements. Alors, l'agriculture est un pilier de l'économie en Tanzanie. L'agriculture, elle représente 25% du PIB, elle emploie 70% de la population active. Et le secteur minier, qui est riche, tel que l'or, les pierres précieuses, apporte 4% du PIB, comme je vous le disais. Le tourisme et de la biodiversité de la Tanzanie font que ce secteur représente 10% du PIB et de l'emploi.
Alors, Idriss Lingier, ce sont donc des indicateurs importants sur l'économie tanzanienne. Alors, vu du Maroc aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'investissement qui se présentent avec ce vaste marché qu'est la Tanzanie?
La Tanzanie offre des opportunités d'investissement assez importantes, notamment pour les Marocains qui ont développé des techniques et des compétences sur les chaînes de valeur agricole. Mais la Tanzanie est aujourd'hui aussi en train de travailler sur le développement du pétrole, du gaz, mais aussi des mines et surtout l'industrie manufacturière. Il y a une opportunité pour le Maroc de venir investir dans ce pays, dans ce que le royaume a su faire en termes de production de voitures, en termes de montage de certains équipements technologiques pour cibler des pays situés sur le côté de l'océan Pacifique. Le gouvernement met en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires, moderniser les infrastructures, faciliter l'accès au financement dans le cadre d'une vision de développement. Le défi, par contre, pour ceux qui vont en Tanzanie, c'est que vous devez vous y mettre à parler le swahili. Ils parlent très bien anglais, mais tout le monde parle swahili, y compris dans les bureaux et dans les documents administratifs. Il faudra surmonter cela. Mais au-delà de tout, la Tanzanie, c'est vraiment un pays de rêve en termes de destination d'investissement. Pour ceux qui ne veulent pas juste aller visiter l'enclave sous autonomie de Zanzibar.
Merci à vous, Idriss Lingier, pour tous ces éclairages sur l'économie tanzanienne. Je rappelle que vous êtes le directeur de rédaction de Mediamania, qui édite entre autres la plateforme Ecofine.
À très bientôt pour un autre pays.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.